Il est pile 18h à Washington. Merci de rester à l'écoute de Radio France Internationale en direct de Paris où il est 1h du matin. Le journal Théo Renaudon. Bonsoir Théo.
Bonsoir. À la une de l'actualité internationale, la France veut battre le métal pendant qu'il est encore chaud face aux nouvelles taxes américaines. Et elle veut commencer par l'acier et l'aluminium. Emmanuel Macron souhaite une réponse ferme et graduée face à Donald Trump. Et ces deux métaux pourraient être les premiers contre-taxés mi-avril. Quel avenir pour le président coréen déchu Yoon Suk-yeol ? La Cour constitutionnelle doit annoncer ce vendredi son verdict. Il avait prononcé la loi martiale et tenté un coup d'État frauduleux. Et puis l'ex-chef d'État français Nicolas Sarkozy a-t-il bénéficié d'un financement libyen de Mouammar Kadhafi ? Le procès se poursuit. Plaidoirie de la défense.
RFI.
Grave, infondée, la taxe supplémentaire de 20% imposée par Donald Trump à tous les produits européens inquiète Emmanuel Macron. Le chef d'État français a présenté ce jeudi un plan de réponse gradué, c'est-à-dire des taxes, cette fois sur les produits américains, d'abord donc sur l'acier et l'aluminium. La France qui vote donc pour une réponse ferme et immédiate, comme l'Allemagne. Ce n'est pas le cas de tous les membres de l'Union européenne. L'Italie, par exemple, temporise et demande des négociations pour à tout prix éviter l'escalade. Mais la base des discussions semble frelatée. Donald Trump accuse l'Union européenne d'avoir arnaqué les États-Unis pendant des années. Réaction et débat au sein de l'Union toute la journée à Bruxelles. Pierre Benazé.
Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, a fait une déclaration à 5h du matin pour dénoncer ses droits de douane et appeler à la négociation. L'interdépendance entre l'économie européenne et l'économie américaine fait qu'une moitié des pays de l'Union européenne est extrêmement favorable à une négociation. Mais l'autre moitié des pays demande une action rapide afin d'imposer des contre-mesures. Même son de cloche de la part de l'eurodéputé socialiste Aurore Laluc, qui préside la Commission des affaires économiques et monétaires au Parlement européen.
Il ne faut pas répondre n'importe comment à ce genre de provocation. 1. Il faut rester calme. 2. Il faut être absolument ferme. 3. Il faut faire du rapport de force. Il faut taper les géants du numérique. Les géants du numérique américains ne peuvent pas vivre sans le marché européen. Et il ne faut pas hésiter à les taxer, il ne faut pas hésiter à répondre en frappant là où ça fait mal.
On a entendu en France et en Allemagne demander de frapper fort rapidement avec des contre-mesures, non seulement mettre en œuvre des droits de douane en rétorsion, mais aussi lancer les mesures anti-coercition. Elles peuvent effectivement permettre de s'en prendre directement aux entreprises américaines en coupant leur capacité à investir, à soumissionner pour des marchés publics ou à exploiter les données de leurs clients européens. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Tout cela amène à un double discours du chef de la diplomatie française. Jean-Noël Barrot a appelé à l'unité des Européens et en même temps, comme Emmanuel Macron, il a promis une riposte. Écoutez le ministre français des Affaires étrangères.
L'Union européenne répondra, elle le fera dans un premier temps dès la semaine prochaine, en réplique aux droits de douane qui ont déjà été appliqués il y a quelques semaines par les États-Unis sur l'acier et l'aluminium. Et puis elle engagera, elle l'a déjà dit, des consultations pour prendre le cas échéant de nouvelles mesures à la suite des droits de douane réciproques qui ont été appliqués hier soir. Comme l'a rappelé la présidente de la Commission européenne, l'Europe dispose de tous les moyens pour protéger les Européens, leurs intérêts et leur prospérité. Nous avons développé ces dernières années des instruments puissants de défense commerciale pour le faire. Mais notre réponse ne sera à la hauteur que si elle est unitaire, si les Européens font preuve d'unité. C'est ainsi qu'ils pourront entrer en position de force dans les négociations lorsqu'elles s'ouvriront au bénéfice de la prospérité européenne.
Et le champion toute catégorie de ces droits de douane, c'est le Lesotho, petit royaume totalement enclavé en Afrique du Sud. Il est visé par des droits de douane américains de 50% les plus élevés pour une seule nation. Et ça pose de graves problèmes au pays. Ses richesses dépendent principalement des exportations vers les États-Unis, surtout des exportations de jeans. Donald Trump accuse le Lesotho d'être l'un des pires contrevenants, avec des droits de douane élevés pour les produits importés américains. Le royaume envoie immédiatement une délégation aux États-Unis pour négocier. Action, réaction immédiate en revanche au Canada. Le premier ministre du pays annonce des droits de douane de 25% sur certaines importations automobiles américaines. 25%, exactement le même montant imposé par les États-Unis pour tous les véhicules canadiens importés. Imaginez un tribunal transformé en forteresse pour accueillir un verdict hors norme, celui d'un chef d'État. C'est à peu près ce qui est en train de se passer à Séoul, capitale de la Corée du Sud. La Cour constitutionnelle se barricade avant le verdict du procès en destitution du président Yoon Suk-yeol. La municipalité veut éviter toute violence en instaurant un important périmètre de sécurité. Les soutiens violents de l'ex-président seront face à plusieurs milliers d'agents des forces de l'ordre. Célio Fioretti.
14 000 policiers déployés et deux quartiers du centre-ville de Séoul classés en zone de sécurité spéciale. Un dispositif inédit pour veiller à ce qu'aucune violence n'éclate en marge du très attendu verdict de la Cour constitutionnelle. Près de 60% des forces de police du pays seront mobilisées dans la capitale au niveau d'alerte maximale habituellement réservé aux menaces terroristes. La mairie de Séoul veut à tout prix éviter un scénario semblable à celui du mois de janvier où des partisans du président Yoon avaient attaqué un tribunal et saccagé le bâtiment. La cour constitutionnelle est devenue un véritable bunker, impossible d'y approcher à moins de 100 mètres et les magasins et établissements alentour seront fermés au public. Pour ce troisième procès en destitution de l'histoire du pays, les autorités ne veulent pas répéter le scénario précédent. En 2017, lors de la destitution de la présidente Park Geun-hye, quatre personnes avaient trouvé la mort dans des mouvements de foule liés à l'agitation de ses partisans. Célio Fioretti, Séoul, RFI.
11 Turcs interpellés pour avoir appelé à une journée sans achat, relâchés sous contrôle judiciaire. Cet appel avait été initié par l'opposition à Erdogan pour protester contre la dérive autoritaire en Turquie. Le pouvoir turc fait face à la plus grande vague de protestations depuis plus de 10 ans. Une vague de protestations lancée après l'arrestation du maire d'Istanbul, principal opposant à Recep Tayyip Erdogan. Les manifestants subissent une importante répression par la police turque. Dernière ligne droite dans le procès du financement présumé libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. L'objectif est de savoir si l'ancien président a bénéficié ou non de sous de l'ex-dictateur Muammar Kadhafi pour devenir chef d'État, le tout avant de le trahir. Après les réquisitions prononcées la semaine dernière, place aux plaidoiries de la défense jusqu'à mardi prochain. Ce jeudi, les avocats d'Alexandre Djouri ont plaidé pour leur client. Le parquet a donc requis 5 ans de prison contre cet homme d'affaires franco-algérien. Il est soupçonné d'avoir joué un rôle d'intermédiaire dans le pacte de corruption conclu avec la Libye, et ce via Béchir Salé, le trésorier du régime Kadhafi. Compte rendu d'audience, Baptiste Coulon.
Début 2012, Béchir Salé est exfiltré hors de France direction le Niger. Un départ précipité, quelques jours après la publication par Mediapart d'un document compromettant sur un possible financement libyen de la campagne de 2007. C'est Alexandre Djouri qui initie et coordonne l'exfiltration, celle d'un témoin gênant selon l'accusation. Mais l'un de ses trois avocats propose une autre lecture. C'est Béchir Salé qui a fait appel à son ami. L'homme craint que la France ne l'arrête car il est visé par Interpol à la demande du nouveau pouvoir libyen qui aurait pu le torturer, justifie encore l'avocat. Quant à l'implication du patron des renseignements français dans l'exfiltration, l'avocat estime qu'elle était nécessaire pour, dit-il, protéger Béchir Salé, protéger une source. Mais la défense a surtout tenté de corriger le portrait d'Alexandre Djouri dressé par l'accusation. Ni bandit, ni agent de corruption, mais un prévenu qui ne s'est pas dérobé, plaide ce même avocat. Référence évidente à Ziad Takieddine, l'autre intermédiaire poursuivi mais en fuite au Liban. Des paroles pour rattraper celle lancée à la barre par un client parfois familier désinvolte et dont les avocats finissent par demander la relaxe.
Lui est et restera totalement loyal à Marine Le Pen, il l'assure. En France, le numéro 2, Jordan Bardella, du principal parti d'opposition, promet qu'il fera tout ce que lui demande de faire sa chef Marine Le Pen, pourtant empêtrée dans une affaire de corruption condamnée en première instance. Elle pourrait ne pas pouvoir se présenter à la prochaine élection présidentielle. Un appel est en cours. Et puis c'est un témoignage édifiant à écouter dans une nouvelle série podcast originale signée RFI. L'histoire terrible de Yuri, une enfant sud-coréenne adoptée à l'âge de 11 ans sans accord de sa famille. Elle sera ensuite envoyée en France. Cela retrace le phénomène des adoptions forcées en Corée du Sud. 200 000 enfants sud-coréens envoyés à l'étranger depuis 1953. Les mondes de Yuri, un podcast de Nicolas Roca à écouter sur notre application RFI. RFI Pure Radio, c'est la fin de ce journal. Merci de m'avoir suivi. Prochain rendez-vous d'information dans 50 minutes.